Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 15 novembre 2020 que Dieu a fait. Lendemain de Shabbat Kodesh, Parashat Chayé Sara. Et je voudrais revenir quelque peu sur les vies de Sarah. Qui était en fait Sarah? Et faire une synthèse autant que possible de ce qu'ont dit les maîtres d'Israël au niveau de quelques secrets. D'abord, je vais lire en français la Torah, Chayé Sara, chapitre 23, quelques lignes des psukim 1 jusqu'au psukim 3. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles furent les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kiriat Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour dire sur Sarah les paroles funèbres et pour la pleurer. En hébreu, pour la pleurer, n'est-ce pas, c'est les velivkota. Velivkota. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le kaf est écrit en tout petit. Il fait, si vous voulez, une différence entre les lettres qui l'entourent, le bet et le tav et le kaf. Pourquoi cette lettre est écrite en petit? Alors, évidemment, il y a de très nombreuses explications, mais une importante, c'est que si le kaf est écrit en petit, c'est que en fait Abraham n'a pas beaucoup pleuré la mort de Sarah. Pourquoi? Pourtant il aimait, pourtant c'était sa femme, pourtant Sarah a fait pleinement sa fonction. Chaque jour des vies de Sarah était plein, chaque jour de la vie de Sarah était lumière, chaque jour de la vie de Sarah était rempli de la gloire de Dieu dans ce monde. Or, pourquoi l'a-t-il pleuré si peu? Parce que Abraham savait que Sarah avait en fait atteint l'éternité. Elle avait atteint l'éternité et c'est cette éternité qu'on va retrouver avec Tsipora, puisque, encore une fois, je répète, Tsipora a fait la bride de son fils. Et par le chiffre donc 8, le huitième jour. Et donc Sarah était la première femme qui a réussi la réparation de Chava, de la première femme, dit le Zohar. Et donc ce qui est très très important de saisir, c'est que Sarah va être un élément modèle, une femme initiale qui va être la référence suprême pour toutes les femmes de toutes les générations et de toute l'humanité. Sarah a réussi à passer de Sarai à Sarah, exactement comme Tsipora va réussir de passer de sa vie de Galoute à sa vie d'Hébreu. Va essayer de passer de la vie de l'étranger, de l'universel, à une vie, si vous voulez, fondée sur la reconnaissance du Dieu maître de l'histoire, puisqu'elle va réussir, on l'a dit de nombreuses fois, à faire l'unité en elle et à rentrer dans l'éternité. La source de ce passage, la source de ce combat intérieur de Tsipora, c'est Sarah. Et Sarah est donc la femme qui va permettre, si vous voulez, le ribour de toutes les femmes dans leur fonction de libération. Et on ne parle pas évidemment de libération de la femme sans Dieu. La femme ne peut pas se libérer sans Dieu. La femme est obligée et dans son essence même de reconnaître le Dieu maître de l'histoire. La femme est obligée pour devenir Eshet Ra'il, c'est-à-dire femme vertueuse, de revenir à sa source. Et la source de la source, par Chava, c'est Sarah. Et là, je vais me référer au livre extra important de David Saada, Le Point Intérieur. J'en ai souvent parlé ici, aux éditions Albin Michel, aux pages 70, 71 et suivantes. Le Zohar dit une chose très très importante, et notamment le Midrash Rabba 60-16. Il dit, et là je cite, n'est-ce pas, « La manifestation de cette identification de Sarah vient au retour de trois phénomènes qui existaient du temps où Sarah était en vie et qui ont disparu à sa mort. La présence d'une nuée au-dessus de la tente, une lumière subsistante d'un Shabbat à l'autre et une bénédiction particulière caractérisant la pâte pétrie dans cette tente. » Le problème est le suivant. Yitzhak va se marier. Yitzhak a compris que Rivka allait être sa femme et une femme vertueuse envoyée par Dieu. Mais il voulait quand même faire le deuil de sa mère. Il voulait absolument voir si la fonction de Sarah, sa mère, allait être poursuivie par sa future femme, Rivka. Et pour cela, il a fait rentrer dans sa tente. Comme dit le verset, n'est-ce pas, Genèse 24, 67, pardon, Isaac conduisit Rivka, dans la tente de sa mère Sarah. Il prit Rebecca, elle fut pour lui femme, il aima, Israël fut consolé de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, selon le Midrash, je répète Genèse Rabba, Sarah avait la shrina dans sa tente. Elle avait conquis, si vous voulez, par tout son travail intérieur, le chiffre 7. C'est pour ça que la lumière du Shabbat existait de Shabbat en Shabbat. Mais une chose très importante, c'est que aussi, n'est-ce pas, il y avait la bénédiction de la pâte. Cette pâte qui correspondait au temple, n'est-ce pas, à l'échem, au pain de proposition, c'est-à-dire cette pâte qui représentait le monde matériel, qui représentait le monde de la vie tout court dans ce monde-ci, n'est-ce pas, qui était en fin de compte bénédiction pour Sarah. Et ces trois éléments ont été, si vous voulez, sont sortis de la tente, ont été quelque part éteints de la tente, n'est-ce pas? Et Israël voulait voir si véritablement le fait de rentrer sa femme Rivka dans la tente de sa mère allait provoquer la résurgence de ces trois forces. Alors le Zohar est très important là-dedans, dans le Zohar notamment Hadash, à la parashat Yitro, c'est pas pour rien, Yitro étant évidemment le père de Tsipora, 48, et vous comprenez bien ici le clin d'œil de Dieu dans cette source, n'est-ce pas? Eh bien, dans le Zohar Hadash, il est bien expliqué que l'âme de Sarah était en fait liée directement à l'âme de Chava. Donc, par Sarah et par Rivka, Chava va commencer son tikkun, sa réparation. Et pourquoi? Parce que c'est une condition nécessaire. Si cela ne se fait pas, il n'y a pas de Machiav ben David. Il n'y a pas de troisième temple. Et ça, encore une fois, le Zohar est très 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 clair. Dans le Zohar Chaye Sarah 122b, n'est-ce pas? Eh bien, il est bien expliqué que en fait, ce qui est très important, c'est de bien comprendre que le travail de Sarah, c'est l'annonce du troisième temple, qui est par définition éternel. Pourquoi il est éternel? Parce que grâce à Sarah, grâce à Esther, Tsipora va réussir l'éternité et va réussir donc à provoquer la sortie du troisième temple. Et donc, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que le Gilgul de Chava, par rapport au Gilgul de Sarah, par rapport au Gilgul de Esther, et enfin, tout cela induit dans la lame de Tsipora, est une condition sine qua non pour qu'il y ait ce fameux troisième temple que nous attendons avec autant d'empressement. Parce que le troisième temple est un temple zivougi, c'est-à-dire c'est un temple où le couple parfait est réalisé. Le premier temple, dit le Ramchal, Rabbi Moshe Lutzato, de mémoire bénie, le premier temple était masculin, le deuxième temple était féminin, et le troisième temple était le couple, qui est le couple primordial qui revient. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de troisième temple, il n'y a pas de capacité de Dieu de se révéler au monde. Et donc le troisième temple, qui est par nature à Jérusalem, qui est par nature universel, qui est par nature éternel, eh bien, ce troisième temple ne peut se réaliser à la fin des temps de l'histoire, et nous espérons, Bezrat Hashem, à nos générations, que si Sarah, Rivka, toutes les Imaot, et toutes les Avot, toutes les mères, toutes les pères, y compris Abraham Avinu, sont enterrés dans la caverne de Marpella, dans la grotte du Marpella, à Hevron. Et pourquoi ? Parce que là réside le couple initial, Adam et Ève. Et ça, Abraham Avinu l'a vu. Alors qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu, en fin de compte, que la Shrina, que la lumière primordiale, était dans cette grotte, dans cette caverne de Marpella. Il a vu, en fin de compte, que le couple de Dame Arishon, malgré la faute, était quand même plein de lumière. Et que cette lumière a été cachée dans une grotte. Une grotte, c'est par définition obscure. Elle était cachée. Et que seuls les tzadikim, jusqu'à la fin des temps de l'histoire, étaient capables de comprendre. Abraham avait atteint un niveau spirituel tel, c'était quand même l'ami de Dieu. Ne l'oublions pas. Abraham était un prophète. Abraham était un saint. Abraham était l'universel révélé. Et Abraham avait donc compris que, en fin de compte, la lumière d'Adam Arishon, de Chava et de Adam Arishon, était toujours présente dans ce monde, mais à Hevron. Pourquoi Hevron ? Je l'ai déjà dit de nombreuses fois, parce que Hevron, c'est une ville extrêmement sainte par le Chibour, par le Hevron. Hevron, c'est Chibour, ce sont les mêmes otiotes que Chibour. Chibour étant le rapport, le lien entre le ciel et la terre. Eh bien, sans cette Marpella, sans cette grotte, il ne peut pas y avoir de temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem est par définition universel, la Marab à Marpella est par définition hébraïque. Et le troisième point fondamental, c'est Shrem, n'est-ce pas, qui, la pelouse en français, qui va être, si vous voulez, le point cosmique, le relier directement à la matière, à la matérialisation de cet universel, d'où le tombeau de Yosef, Yosef étant vice-roi d'Égypte, bien entendu. Alors, pour finir là, il faut bien comprendre que s'il s'agit d'un enjeu universel, il s'agit de la construction du troisième temple. Ce troisième temple ne peut se faire qu'à Jérusalem, avec un tikkun, une réparation, qui est une réparation au fil de l'histoire, au fil des temps, de Chava, Chava qui évidemment fait partie intégrante de l'universel, et qui par définition va revenir sous l'âme de Sarah, de Esther, notamment, pas seulement, mais notamment, et de Tzipora bien entendu, pour pouvoir faire le tikkun du monde, de manière à ce que la femme enfin devienne une femme vraiment libérée, qu'elle devienne, si vous voulez, à la limite supérieure, bien supérieure à l'homme, parce que la femme, c'est le dernier être créé qui est, par définition, par nature, bien supérieure à l'homme. Merci beaucoup.